Accent d'Europe, Frédéric Lebel.
Bonjour à tous. Des chiffres à vous donner le vertige. 100 milliards de sacs plastiques utilisés et presque aussitôt jetés chaque année en Europe. En fin de semaine dernière, l'Union européenne a dit d'une seule et même voix non à ces déchets envahissants. L'ensemble des pays européens va devoir réduire de plus de trois quarts sa consommation de sacs plastiques d'ici 2025. Au Portugal, où l'on frise le record avec plus de 460 sacs par an et par personne, le gouvernement veut aller vite pour renverser la tendance et réhabiliter le cabas en toile ou le sac en papier. C'est le reportage à Lisbonne de Marilyn Darcy.
Voulez-vous un sac plastique ? L'employé du supermarché pose la question à tous les nouveaux clients qui s'approchent de sa caisse. Dans cette chaîne de magasins, on vend les sacs alimentaires 2 centimes pièce depuis 2007 pour dissuader le consommateur de les gaspiller. Anna Rovichko, responsable du département environnement de la marque.
Nous avons cessé de les distribuer gratuitement. Un client qui achète un sac de la marque Pingo dosé pour 2 centimes obtient un sac à vie. À chaque fois qu'il est abîmé, il peut le changer au supermarché, comme l'expliquent les caissières. En fait, il s'agit de sensibiliser les gens pour qu'ils utilisent moins ces sacs. Ça ne nous fait pas gagner d'argent, mais ça permet de valoriser ce plastique si banal.
Jusqu'à présent, la marque a pu réduire de 3000 tonnes la quantité de sacs distribués dans ses boutiques. Mais globalement, la situation n'est pas fameuse au Portugal, avec 466 sacs par an et par personne, contre 198 en moyenne en Europe. Pour revenir à des niveaux plus raisonnables, le gouvernement a décidé de créer une taxe de 10 centimes sur chaque sac, une mesure controversée, particulièrement par les fabricants de sacs plastiques. Rui Toscano, dirigeant de Plastval, qui réunit les industriels du secteur.
Nous pensons que la première erreur, c'est d'appliquer la taxe sur les seuls plastiques légers. Ça favorise certains fabricants. Quitte à créer une taxe pour faire changer les comportements, autant la baisser et l'appliquer à tous les emballages, en plastique ou en papier.
L'industriel ne veut pas nier l'impact négatif des sacs plastiques sur l'environnement, mais il estime, comme beaucoup d'autres, que le gouvernement cherche surtout à faire entrer de l'argent dans les caisses de l'État. Rui Toscano.
Bien évidemment, cette nouvelle taxe, cette éco-fiscalité, va permettre de diminuer d'autres impôts, comme l'impôt sur le revenu, par exemple. Mais je ne suis pas bien sûr qu'on ait mesuré les dommages collatéraux. La taxe ne va pas servir à la protection de l'environnement, mais plutôt servir des intérêts économiques ou politiques.
Les écologistes, quant à eux, sont sceptiques sur l'impact pédagogique de la décision. Carmen Lima, de l'ONG environnementale Quercus.
À cause de la crise, les gens sont assez méfiants dès qu'on prononce le mot « taxe », surtout si elle est importante. Alors imposer une mesure radicale d'un seul coup risque de se révéler contre-productif. Les consommateurs peuvent penser que c'est un impôt de plus et non pas une mesure écologique.
Des sacs plus rigides et réutilisables, des caisses spéciales pour les clients qui ont apporté leur propre sac en tissu ou en osier, voilà des solutions qui existent et dont la mise en œuvre n'est pas si compliquée. Mais il faut changer les mentalités. Carmen Lima, de Quercus.
Les clients ne considèrent pas les sacs plastiques comme des biens de consommation, mais plutôt comme quelque chose de gratuit, auquel on trouvera bien une utilité. Donc ils en accumulent des tonnes chez eux. Mais il faut changer les habitudes, ce n'est pas parce qu'il ne coûte rien que le sac plastique n'est pas précieux.
Faire payer cher les sacs distribués aux caisses de supermarché fera-t-il changer les choses ? Réponse des premiers intéressés, les clients.
Vous savez, il faut des années pour qu'un sac se décompose. Alors moi, je privilégie les sacs rigides réutilisables. Mais une fois de plus, c'est nous qui allons payer la taxe.
La taxe, c'est très bien. Je pense qu'il faut en finir avec le plastique. Les gens vont utiliser des sacs en tissu ou en papier, parce que c'est bien joli, les produits dérivés du pétrole, mais ça détruit notre environnement, la mer, mais aussi la terre.
Un début de prise de conscience. Il faudra sans doute plus pour inverser la tendance, mais le gouvernement espère ramener à 50 le nombre de sacs plastiques par habitant et par an, et cela dès l'an prochain.
Je vais lui construire les plus magnifiques des palais. Et c'est toi, numéro bis, qui en sera l'architecte.
C'est moi qui en serai l'architecte, c'est-à-dire.
Tu as 3 mois, jour pour jour, top chronos.
3 mois, mais 3 mois, avec combien de temps de retard?
Son nom est devenu en Espagne un symbole de la corruption dans un pays en crise. Pourtant, dans le monde, Santiago Calatrava est un architecte de renom. Ses projets spectaculaires ont été couronnés de prix, mais ils sont aussi critiqués pour malfaçon. Bref, Santiago Calatrava, espagnol mais résident suisse, défraie de plus en plus la chronique judiciaire. À Madrid, François Musso.
À Valence, la Cité des Arts et des Lettres a coûté plus d'1 milliard d'euros, soit 3 fois le prix initial. Le toit couvrant des caves de mecs dans la Rioja connaissent d'importantes fuites d'eau. À Venise, le pont sur le Grand Canal suscite des plaintes car les handicapés ne peuvent le franchir. À Bilbao, où il pleut beaucoup, le sol du pont en verre fait que beaucoup de gens glissent. On pourrait continuer longtemps la liste des œuvres architecturales signées Santiago Calatrava. Chacune a 3 points en commun. Le premier est que cette œuvre a été très applaudie par la critique, qu'elle a souvent reçu des prix et qu'elle est spectaculaire aux formes effilées, organiques, méditerranéennes. Le deuxième point commun est qu'à chaque fois, il y a un défaut dans la construction en raison des matériaux ou de la façon de les agencer. Le troisième point commun est que l'œuvre a toujours coûté beaucoup plus cher que ce qui était prévu. Tout cela, c'est le style Calatrava, un enfant du pays longtemps adulé à Valence, du panache, de l'originalité, du clinquant, mais aussi de l'ambiguïté, des zones obscures, des scandales. À Valence, justement, les autorités l'ont payé 2,7 millions d'euros pour un centre de convention qui n'a jamais été construit et on ne sait pas trop où est parti l'argent. Santiago Calatrava, calme, droit dans les yeux, s'est défendu devant des juges, mais le mal est fait. En Espagne, on a fini par associer l'architecte à la corruption, au gigantisme futile et aux dépenses fastueuses, alors qu'il n'y a plus d'argent dans les caisses publiques. Pour couronner le tout, Calatrava vit exilé en Suisse pour, dit-on, jouir d'un exil fiscal doré.
C'est au détour d'un débat au Parlement pour réformer la loi sur l'avortement que les Britanniques ont découvert une pratique inavouable. Plusieurs milliers d'avortements dans le pays seraient motivés par le choix du sexe du bébé. Le flou de la législation permet actuellement de telles dérives. Mais faut-il durcir la loi au risque de rendre les interruptions de grossesse plus difficiles? C'est le reportage à Londres de Marie Billon.
En Grande-Bretagne, cela fait presque 50 ans que les femmes peuvent avorter. C'est un droit pour lequel elles se sont battues. Mais aujourd'hui, une députée du parti conservateur, Fiona Bruce, veut remettre le texte en cause parce qu'elle le trouve trop vague et permettrait des abus. En cause, les interruptions de grossesse dues au sexe du bébé. Certains parents préfèrent avoir des garçons. Ils profiteraient donc de la flexibilité de la loi pour ne pas poursuivre la grossesse s'ils attendent une fille. C'est une question épineuse qui divise jusque dans les rangs des féministes. Rani Bilkou, du groupe de pression Stop Gendercide, est pour le droit à l'avortement, mais elle soutient ce projet de loi.
Je veux que la loi dise clairement que l'avortement sélectif est illégal. Il faut que ce soit écrit noir sur blanc.
Le gouvernement a déjà dit que la pratique était interdite, mais ce commentaire ne fait pas force de loi. C'est le Parlement qui décide, alors Rani veut que le texte de 1967 soit modifié.
Il s'agit de violence envers les femmes avant même qu'elles ne soient nées. C'est une violence dont les origines sont culturelles. Souvent, c'est la famille ou la communauté qui pousse ces femmes à avorter. Parfois, c'est de l'autocensure. Elles savent qu'elles doivent avoir des garçons, pas des filles.
Rani parle en particulier des communautés indiennes et asiatiques, même si elle estime que toutes les nationalités sont plus ou moins touchées par cette misogynie. Le problème, c'est qu'on ne sait pas combien d'avortements sont pratiqués chaque année à cause du sexe du bébé, même si le recensement de 2011 les estime à moins de 5000. On ne sait pas non plus si certains médecins acceptent de procéder aux interruptions de grossesse quand la véritable raison est donnée. Le quotidien, le Daily Telegraph, a donc décidé d'enquêter. Une journaliste a fait croire à une obstétricienne qu'elle voulait avorter à cause du sexe du bébé. L'échange a été enregistré en caméra cachée il y a quelques mois.
Hello, hi. Mon partenaire et moi sommes allés en France et nous avons fait un test sanguin. Et apparemment, c'est une fille que nous attendons. Ce n'est pas vraiment une bonne nouvelle pour nous en ce moment. Nous espérions un garçon. Donc, nous ne voulons pas ce bébé.
À quel point êtes-vous sûre du sexe de l'enfant ?
Presque 100% sûre.
Je suis curieuse, vous auriez le rapport ?
Non, je ne pensais pas en avoir besoin.
Non, je ne pose pas de questions. Si vous voulez avorter, vous voulez avorter.
Oui, et c'est ça ma raison.
C'est mon travail, je ne pose pas de questions.
La docteure finit sur un sourire visiblement mal à l'aise, même si elle s'arrange ensuite pour que l'IVG ne se fasse pas par le NHS, le Service National de Santé, mais dans une clinique privée. Cette vidéo, c'est la seule preuve qui démontre l'existence de cette pratique au Royaume-Uni. Pour Lisa Holgarten de l'organisation La Voix du Choix, qui milite pour le droit à l'avortement, cette vidéo du Daily Telegraph ne prouve rien puisque c'est un piège.
Devoir se justifier auprès de son médecin, c'est un problème. Cette histoire le montre. La plupart des femmes ne disent pas « je veux avorter parce que c'est une fille ». Tout le monde sait que ce n'est pas la chose à dire, donc personne n'a aucun indice pour déterminer l'ampleur du phénomène au Royaume-Uni.
Pour Lisa, le débat est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît de prime abord. Sur le principe, elle trouve l'avortement sélectif choquant, mais dans les faits, elle se bat pour que le droit à l'IVG reste entier.
La plupart de ceux qui veulent interdire les avortements sélectifs veulent réduire le droit à l'avortement en général. Tout le monde sait que ce sujet émeut beaucoup de gens. C'est donc une cible facile. Et ceux qui sont derrière cette proposition savent très bien quelles seraient les conséquences. Pas seulement un droit à l'IVG plus limité, mais rouvrir le débat sur l'avortement. Ils veulent qu'on remette en cause le texte, point par point.
Lisa estime qu'interdire l'avortement sélectif, c'est aussi mettre les femmes en danger, parce que ce n'est pas une nouvelle ligne dans la loi qui changera les mentalités. Certains avortements pourraient alors devenir clandestins ou, et c'est déjà le cas parfois aujourd'hui, se faire dans des conditions sanitaires moins propices à l'étranger.
Pour certaines femmes, avorter parce que c'est une fille est un choix rationnel. Certaines d'entre elles sont en danger ou menacées. D'autres ne sont pas dans cette situation, mais elles se rendent compte que mettre au monde une fille dont on sait qu'elle sera maltraitée ou discriminée n'est pas une bonne idée.
Pour Lisa, légiférer sur la question, c'est donc une solution trop simple à un problème trop compliqué. Elle rejoint Rani sur un point. Toutes deux sont d'accord là-dessus. Il faut aider les femmes qui sont maltraitées à cause de leur sexe et surtout, il faut agir auprès des communautés qui estiment qu'une fille vaut moins qu'un garçon. Un combat beaucoup plus long qu'un simple amendement sur un texte de loi.
Good evening, ladies and gentlemen.
You recognize my voice?
This is your storyteller.
That's a good start.
L'extrême droite, troisième parti en Suède. Personne n'y croyait avant le succès des démocrates suédois aux législatives. Le magazine trimestriel Expo, fondé par le romancier Stieg Larsson, décrypte cette extrême droite. Pauline Curté a rencontré le directeur de la rédaction, Daniel Poul. Elle lui a demandé comment le magazine avait dû s'adapter face à la percée des démocrates suédois.
En un sens, notre travail n'a pas beaucoup changé. Nous essayons d'expliquer, de décrypter les idées des groupes les plus extrêmes. Mais une chose a changé. Entre les années 90 et maintenant, les démocrates de Suède ont changé de look, de rhétorique. Ils sont devenus beaucoup plus fréquentables et ils ont gagné des électeurs, beaucoup d'électeurs. Alors aujourd'hui, nous devons aussi chercher à comprendre pourquoi les gens votent pour ce parti. Pour cela, nous nous inspirons d'autres pays européens, de la France par exemple avec le Front National. Une raison parmi d'autres, c'est que beaucoup de gens considèrent que l'immigration est actuellement la question la plus importante en Suède. Or, la plupart des partis politiques ont une réponse à peu près semblable, peu audible à ce sujet. Seuls les démocrates de Suède ont vraiment su y répondre, à leur manière.
Lors des élections législatives, le bon score de l'extrême droite s'est retrouvé en gros titre de tous les journaux suédois. Comment vous êtes-vous différencié de ces journaux ?
Nous essayons de traiter avec nos ressources de sujets que les autres journaux ne traiteront pas. Par exemple, après les législatives, nous nous sommes tournés vers la politique d'immigration proposée par les démocrates de Suède. Ils veulent la faire baisser de 90%. Nous avons voulu comprendre quelles seraient les conséquences d'une telle politique. Et nous avons rencontré des personnes qui auraient à quitter le pays si jamais cette mesure était appliquée. Ils nous ont raconté leur vie, leurs attentes. Ça, personne d'autre ne l'a fait.
And what kind of stories do they have?
Quelle relation entretenez-vous avec les représentants de l'extrême droite suédoise?
Tout dépend des personnes. Certains savent que nous vivons dans une démocratie et que s'ils sont élus, ils doivent aussi accepter la critique. Quand on les appelle pour commenter un article, ils le font de bonne grâce. Il y a ceux qui sont très gentils car ils veulent montrer qu'ils sont des gens polis, bien élevés, pas racistes. D'autres, par contre, nous détestent tellement qu'ils refusent de nous parler. Par exemple, dans une ville au nord de Stockholm, une église nous accueillait régulièrement pour des conférences sur l'extrême droite. Les conseillers municipaux des démocrates de Suède ont proposé de supprimer ces conférences et d'interdire notre venue. Ils n'ont pas réussi.
L'extrême droite est votre unique objet d'investigation. Vous arrive-t-il de vous ennuyer ou d'avoir des difficultés à trouver de nouveaux angles pour votre magazine ?
Notre travail est de comprendre un paysage politique qui change tout le temps. Alors non, on ne peut pas s'ennuyer. Il y a toujours de nouveaux angles à traiter. Par exemple, aujourd'hui, tout le monde parle d'Ebola, l'extrême droite aussi. Les théories du complot émergent, souvent lancées par des groupes antisémites. Et puis, actuellement en Europe, chaque pays a un parti nationaliste, raciste, populiste. Quelque part, quand on observe l'extrême droite et sa popularité, on peut aussi comprendre comment évolue la société. C'est un thème très important et aussi très inquiétant.
Stieg Larsson a cofondé votre magazine avant de devenir un auteur à succès, connu partout dans le monde. Son héritage n'est-il parfois pas trop lourd à porter ?
When Stieg passed away, it was a really tough time.
Au début, quand Stieg est mort, ça a été très dur pour nous. Nous étions jeunes, avec très peu d'expérience. Il nous a fallu attendre longtemps avant de décider quoi faire d'Expo. Notre objectif était de construire quelque chose dont il aurait pu être fier, et je crois que nous y sommes arrivés. Mais aujourd'hui, beaucoup de gens qui travaillent pour Expo n'ont pas connu Stieg. Son héritage est présent, bien sûr, mais de moins en moins de gens savent que Stieg Larsson a travaillé pour Expo. Il est connu pour Millennium, il le connecte à ses livres, à Lisbeth Salander, son personnage principal, mais plus à nous.
Justement, ne souffrez-vous pas de la comparaison entre le magazine Millennium, sorti de l'imagination de Stieg Larsson, et Expo ?
Millennium is a fantasy.
Pas vraiment, mais on nous a souvent confondus, même si Millennium était un fantasme, celui du magazine parfait, irréprochable. Cependant, assez tristement, les gens oublient. La trilogie Millennium fait un peu partie du passé, en tout cas en Suède. À l'étranger, c'est un peu différent. Les gens ne connaissent pas Expo, mais quand on leur dit que le magazine a été fondé par Stieg Larsson, ils savent tout de suite de qui nous parlons. En ce sens, nous sommes pour un magazine politique de taille modeste, très connu partout dans le monde.
Daniel Poul, directeur de la rédaction du magazine suédois Expo. C'est un des quartiers à ne pas manquer à Amsterdam. Il est situé à un jet de pierre du quartier des musées et offre tout ce que la capitale néerlandaise fait très bien, de bons cafés, des marchés et des parcs. De Pipe, c'est son nom. Visite avec Sabine Sessou.
Aux portes du musée de la bière Heineken, des cars déversent leur flot de touristes chaque jour. Juste derrière se trouve De Pipe, l'un des quartiers les plus branchés d'Amsterdam, hors des circuits touristiques. On y trouve des dizaines de petits cafés et restaurants, ainsi que le salon de thé, de tarte, Van Mijn Tante, la tarte de ma tante en néerlandais, coussins rose bonbons, décorations kitsch et délicieuses pâtisseries. L'adresse est connue pour ses fraisiers et ses forêts noires. Sur la rue Franz Hallstraat, très tranquille, les bonnes adresses pullulent aussi, du petit restaurant japonais à la brasserie française, en passant par les cafés bio où l'on sirote des smoothies en terrasse au moindre rayon de soleil. Un peu plus loin, une longue rue piétonne abrite le marché Albert Cuyp, ouvert tous les jours sauf le dimanche. On y trouve de tout, du fromage bien sûr, du hareng fumé chez le poissonnier, mais aussi des chaussures, des meubles ou des fleurs coupées, très bon marché. Dans les petites tavernes de Albert Cuyp, on sert de la cuisine épicée du Suriname, une ancienne colonie néerlandaise. Et si l'on pousse un peu plus loin, le long du canal de Roosdalkade, on peut tomber sur un petit quartier rouge, une dizaine de maisons avec les fameuses vitrines que louent les prostituées. Pas vraiment pour les enfants, que l'on emmènera plutôt dans le jardin public de Sarfati Park pour y escalader un arbre centenaire au tronc couché. Autrefois peuplé d'ouvriers, le quartier du Pipe abrite désormais un fort contingent de bobos d'Amsterdam, ces bourgeois bohèmes qui aiment l'aventure, mais aussi le confort.
Accent d'Europe était réalisé aujourd'hui par Françoise Grelot. Retrouvez-nous sur notre site www.rfi.fr et sur Facebook. Dans quelques instants, un nouveau journal, un nouveau rendez-vous avec l'actualité sur RFI. À demain.
Thank you. autour de la question.